RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Un grand honneur pour moi de retrouver en duplex de Chamonix, Johan Durand, évidemment le maître Yodu, le meilleur coach de France. Salut Johan.
Salut Benoît, ça va?
Ah bah ça va, je suis de retour de vacances, je vois tout ce que vous faites et l'excellent travail à Chamonix, je vous félicite. Donc bravo à tous, toute l'équipe d'RMC Running, et je suis un peu ému parce que mes deux idoles sont réunies ensemble dans un chalet au cœur de cette vallée, parce que Kylian Jornet, la légende du trail, est à tes côtés. Salut Kylian.
Salut.
Et bah Kylian, ravi de te retrouver aussi. Eh oui, Durand face à Jornet, ça c'est quelque chose. Peut-être
y aurait...
que ça arrivera un jour sur une ligne de départ d'un trail, hein, bientôt, peut-être, pourquoi pas.
L'année prochaine pour
ouais.
Moi.
Exact. Oui, il faudra qu'on fasse
et
quelque chose.
Aller
oui.
Sur la route, ouais. Et moi je vais aller sur trail.
Ah ouais. On va faire un Anvers.
Moi j'ai hâte de voir ça. On est ravis que vous soyez là tous les deux. Kylian, ravi de te recevoir. La mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques jours. Tu es forfait pour cette 23e édition de l'UTMB. Ça démarre demain parce qu'on enregistre jeudi. Donc on va pouvoir parler de tout ça, ton actu, ta vision de la course. Et puis on rappelle surtout que ce podcast est réalisé en collaboration avec Coacha. C'est une application de coaching. Et tu es fondateur, ambassadeur en tout cas de cette application. On accueille donc Ben Dupont qui lui est le fondateur de Coacha et qui a réussi à te recruter. Ça c'est une performance. Salut Ben.
Hello Benoît, hello à tous.
Ben, ravi de t'accueillir aussi. On va prendre le temps comme ça de raconter la philosophie de Coacha. Il y a Kylian pour le trail, il y a Eliud Kipchoge pour la route. Tu vas
c'est
nous en parler, c'est pas mal. Effectivement c'est un bon casting.
Bravo.
Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Alors Kylian Jornet, la question que le monde entier se pose, comment vas-tu déjà? Est-ce que ce genou te fait encore souffrir? Quelles sont les étapes qui t'attendent désormais?
Ça me fait... En fait, c'est marrant parce que j'ai pu m'entraîner, j'ai pu courir. Le problème, en fait, c'est un problème de ménisque. Hein. Donc, ça arrive plus quand j'essaie de courir très vite ou sur la durée. Ouais. Donc, l'entraînement, ça va, mais c'est un problème que j'ai depuis presque 3 ans. Donc, on a essayé de naviguer avec la charge de travail... en faisant plutôt une approche conservateur, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, la semaine dernière, j'ai essayé de faire 80 bornes ici pour voir un peu comment je me sentais avant la course, mais j'ai vu que ça faisait mal. J'ai décidé de ne pas participer et bien attaquer un peu le problème du genou, faire une opération bientôt pour être présent l'année prochaine.
C'est donc un problème mécanique a priori, ça veut dire qu'après l'opération, tout devrait rentrer dans l'ordre et tu pourrais recommencer à t'entraîner normalement?
Normalement, après, on sait toujours, ouais, les réhabilitations, rééducation, ça peut dépendre beaucoup. J'ai eu des rééducations qui ont été très vite, d'autres plus lentes, mais l'idée, c'est assez simple normalement, on verra après commencer, mais normalement l'idée c'est cet hiver de pouvoir déjà faire des courses de ski.
La première info que tu m'as lâchée, c'est d'être présent l'année prochaine. Donc c'est-à-dire qu'UTMB 2027, est-ce qu'on peut cocher Jornet ou ça c'est
non,
pareil,
ouais,
ça dépendra de... Non, c'est reprendre la course.
Non, j'ai pensé plutôt être présent sur la compétition à nouveau. Après, on verra, on n'a pas encore discuté avec ma femme, avec qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais oui, je ne sais pas aujourd'hui, je pourrais te dire oui ou non et ça pourrait être un message.
Bien sûr. Toi, Johan, tu as la chance d'être face à Kylian, comment tu le trouves? Tu le trouves affûté, souriant
affûté,
quand même?
Ça, c'est sûr. C'est très souriant.
Comment tu le sens là?
Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu es blessé comme ça pendant plusieurs années et que tu cherches des alternatives, parce que voilà, l'opération, c'est vraiment le dernier truc que tu coches. Tu vois, d'abord, tu essayes le kiné, le podologue et puis tu commences à modifier certains de tes entraînements, puis certaines de tes compétitions. Tu évites d'aller sur des trucs qui peuvent te mettre un peu en difficulté. Et si Kylian se fait opérer, c'est certainement qu'il il est au bout de ce chemin-là et qu'à un moment donné, l'opération, c'est inévitable. Et après, je sais, moi, j'ai été opéré du tendon d'Achille. Ouais. Quand tu as fait le deuil de se dire, terminer de chercher pendant 2 ans à galérer, à avoir mal, à pas avoir mal, à essayer de trouver des solutions à tout, quand tu acceptes de prendre l'opération et de se dire, derrière, je vais revenir et je serai encore plus fort parce que l'opération, normalement, souvent se passe bien et tu peux repartir. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, je sens que Kylian est peut-être déjà dans l'après, comme tous les sportifs de haut niveau, quand on a des petits pépins comme ça, déjà de se projeter et de se motiver sur des échéances qui arrivent.
Ouais. Ça, c'est sûr. Dès qu'on est dans la projection, c'est que c'est bon
bah,
signe.
Ouais, c'est que déjà, tu as passé l'étape, tu as accepté la blessure, tu passes par la case un peu opération, et puis c'est reparti.
Et Kylian, la seule inquiétude qu'on a pour toi, c'est qu'on voit le volume d'heures d'entraînement que tu peux réaliser sur une semaine. C'est comment tu vas combler ce manque?
Je l'ai vu courir avec une botte la dernière fois qu'il était blessé. Il faisait du vélo avec.
Est-ce que tu vas pousser le développement de...
On trouve toujours des alternatives.
Ouais. De tes marques.
De la muscu, de l'escalade, du vélo. Donc ouais, ça c'est... il n'y a pas de souci. Ouais.
Il sera pas assis dans le fauteuil.
Voilà. Le transfert d'activité est prévu. Quoi. Tu ne vas pas rester dans le canapé à rien faire. Quoi. Non, c'est pas
non,
programmé.
Ça, on ne peut pas. Je pense que... Et même... Même on sait aujourd'hui que le meilleur traitement des blessures, c'est continuer à être actif.
Exactement, tout à fait. Ouais, donc c'est important de rester actif. Alors parlons de cette 23e édition de l'UTMB. Hein, t'es pas la seule grande vedette qui a déclaré forfait malheureusement. Jim lui aussi a dû déclarer forfait. Tom Evans aussi. Ça nous rend un plateau assez ouvert, un plateau élite assez ouvert chez les hommes. Comment tu le vois? Déjà, tu dois avoir beaucoup d'amis sur la ligne de départ, ils s'élanceront demain. Est-ce que tu es excité de suivre cette course? Est-ce que toi, tu as un petit favori dans la tête quand même?
Je suis super excité de voir la course, de la suivre. Cette année, il y a un gros plateau, même s'il y a eu quelques forfaits. La densité de la course, elle reste très élevée. Mmh. Et en fait, je dirais qu'il y a une dizaine de coureurs qui s'ils gagnent, ça ne serait pas une surprise. Hein. Et en fait, sur ces courses longues, c'est très difficile de faire des prédictions avant parce que c'est le déroulement de la course qui va marquer la chose.
Les conditions météo,
demain, qui vont être un peu compliquées peut-être.
Ah, ça, on annonce du mauvais temps.
Ouais.
Ok. Oh, t'aurais pu te régaler, c'est dommage qu'il y en
ait. Ouais, c'est sûr. Là, c'est un peu. Il fait très très chaud, mais. Il paraît que demain, il commence à bien pleuvoir.
Et voilà, donc il faudra suivre ça. On a un beau plateau féminin aussi. Hein, et nous, évidemment, on croise les doigts pour Blandine Hirondelle, ouais. Qui fait partie des favorites et qu'on aimerait bien voir triompher comme ça dans les rues de Chamonix. Évidemment, je l'ai dit, tu es une légende du trail. Tu as gagné 4 fois l'UTMB. On a eu la chance de te recevoir plusieurs fois. Tu as inspiré des milliers et des milliers de fans de sport et de fans de trail désormais. On sent depuis quelques années avec Johan, à travers ce podcast RMC Running, que le plateau élite, justement, se professionnalise. Est-ce que tu le constates aussi? Est-ce que tu vois que dans les méthodes d'entraînement, on a progressé? Et est-ce que tu penses qu'on prend la bonne direction dans le trail et la pratique du trail?
Oui, je pense il y a une professionnalisation du sport. Surtout les 10 dernières années, on voit que la quantité de coureurs qui se dédient exclusivement à l'entraînement, au trail, elle grandit. Et aussi, l'approche à l'entraînement, à tout ce qui est la vie de l'athlète de niveau, par rapport à la nutrition, par rapport à tout ce qui est récupération, par rapport aussi au côté être professionnel, à tout ce qu'il y a autour du sport, il est de plus en plus important. Et c'est une chose qui fait, bien sûr, augmenter... le niveau, mais aussi la densité des courses. Je pense que c'est surtout ça qu'on voit de plus en plus, que n'importe quelle course, on a une densité qui fait des belles courses à suivre. On l'a vu il y a quelques minutes à l'arrivée de la OCC, les trois filles qui arrivent à première, deuxième avec 3 secondes, troisième à 1 minute. C'est de plus en plus ça.
Ah ouais, c'est fou.
C'est très serré. Hein.
Ah ouais, c'est fou. Toi, Johan, t'as moins l'habitude que Kylian de fréquenter comme ça ces gros trails mondiaux. Et là, on parle peut-être du plus beau trail au monde avec l'UTMB toute cette semaine. T'es arrivé dès lundi. Et t'étais là l'année dernière aussi. Est-ce que tu sens l'effervescence encore plus forte cette année, Johan? Tu le ressens toi aussi?
Ah oui, clairement. Tu sens une effervescence dans ce village de Chamonix. Tu sens que c'est le championnat du monde de trail et que t'as les athlètes, mais t'as aussi tout un tas de spectateurs, d'accompagnants, de marques. Tu sens que tout le monde vit pour cet événement toute la semaine. Et après, voilà, la vraie problématique qui peut se poser, c'est toutes les questions autour de justement, est-ce que ça ne devient pas trop Ça, c'est les organisateurs qui doivent se pencher sur cette problématique-là et réfléchir à comment faire en sorte de préserver un peu bah, justement l'esprit trail qui était le cas il y a au début, en 2002, 2003, 2004, quand ils ont lancé cet événement. Et aujourd'hui, la difficulté, voilà, de pas être se laisser dévorer par cet événement qui grossit chaque année, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde que l'année dernière, alors que l'année dernière, déjà, j'avais trouvé ça assez énorme. Mais après, voilà, c'est la fête. Enfin, c'est tellement populaire, c'est la fête du running. Enfin, moi, je suis là toute la semaine. Tu as des groupes qui partent en run toute la semaine. Tu as des courses, tu as des familles. Et quelque part, bah, c'est aussi ça la course à pied, c'est le partage, c'est toujours dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Mais ouais, c'est un équilibre à trouver. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est. Le peu, enfin depuis que je suis dans le milieu du trail, c'est un milieu qui m'attire parce que effectivement t'as le brouhaha qu'il y a à Chamonix, mais quand je déclenche mon chrono pour partir faire mes footings le soir, au bout de 2 minutes en dehors de Chamonix, t'es tout seul dans la montagne, t'es tout seul dans tes chemins, t'es tranquille et t'as la beauté et t'as la montagne pour toi tout seul. Et ça, personne peut te l'enlever, ce massif-là et le fait de courir tout seul au milieu de nulle part dans cet environnement-là. Et ça, c'est une force. Ouais.
Et ça, c'est sûr. On rappelle, Kylian, tes victoires à l'UTMB 2008, 2009, 2011, 2022. Toi qui as gagné, qui étais l'OVNI de 2008, comment toi, tu ressens personnellement ce paradoxe avec l'énorme démocratisation du trail, cette semaine folle comme ça à Chamonix, avec l'affluence des spectateurs et des coureurs, mais aussi finalement ta discipline qui grandit. Ça doit être très particulier comme sentiment pour toi.
Je dirais que ce n'est pas particulier. En fait, je trouve que c'est très bien que ça grandisse dans le fait que déjà faire du sport... C'est de plus en plus important avec notre société qui est de plus en plus sédentaire. Donc, n'importe quelle activité physique qui se développe, c'est important pour ça. Et les sports nature, dont le trail en fait partie, c'est aussi important pour la santé mentale des gens, la santé, être en nature, être connecté à l'environnement, c'est important pour... Pour ça et aussi pour se rendre compte de l'écosystème. Je suis persuadé que toutes les personnes qui vont aller courir en nature, ils voient ces écosystèmes et ils ont envie de les préserver. Donc la popularisation du trail, à mon avis, elle est positive sur ça. Après, il y a des cas particuliers de périodes ou des endroits où il peut y avoir une problématique de surpopulation, d'une démographie de coureurs qui est très élevée. Et c'est là où les organisateurs ils doivent boire avec les responsables des zones naturelles. Quelle est la capacité de ces zones naturelles d'accueillir 50, 200, 3000 ou 10 000 coureurs. Ouais. C'est la différence par rapport à la course sur route qu'on peut... faire participer à beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas cet impact sur les chemins, la flore et la faune que sur ces endroits-là il faut être respectueux, mais la plupart des organisateurs dont aussi l'UTMB, ils font des études pour voir quel est leur impact par rapport au nombre de coureurs qui sont sur les parcours.
Exactement. D'ailleurs, pour l'UTMB, le nombre de dossards et de participants n'évolue plus. Hein. C'est pour ça que c'est dossard si précieux. C'est que c'est toujours compliqué d'aller obtenir le précieux sésame pour pouvoir s'élancer comme ça à la fin du mois d'août sur le plus beau massif d'Europe, peut-être du monde. Et justement, Kylian, aujourd'hui, tu as 38 ans. Donc, tu as accompli énormément de choses dans ta carrière. Avec Johan, on t'a reçu pour énormément de défis aussi fous et inspirants les uns que les autres. Tu es toujours aussi passionné par le haut niveau parce que tu voulais t'élancer comme ça au départ de cette UTMB. Donc, tu as encore cet esprit compétiteur. Est-ce que tu as aussi désormais, et on va pouvoir en parler avec ton implication dans l'appli Coacha, ce besoin de transmission aussi, parce que tu sais très bien que tu as inspiré de beaucoup d'athlètes, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de transmettre la méthode d'entraînement, la façon de s'entraîner, l'amour du sport, peut-être les erreurs à éviter? Est-ce que ça, tu le ressens aujourd'hui, toi, au quotidien? Et est-ce que c'est le chemin que tu es en train de prendre actuellement?
Forcément, en fait, déjà, depuis longtemps, j'avais fait mes études en STAPS Et la physiologie, l'entraînement, c'est une chose qui m'a toujours intéressé.
On se souvient de ton tableau Excel hein, que tu tenais à 18 ça, ans ça avec toutes années, les séances ouais. remplies.
C'est toujours le cas.
Vas-y, on le sait, hein, t'inquiète pas.
Ça, ouais. ça continue. Fou, ça. Donc, ouais. Donc, du coup, oui, ça a été toujours un intérêt. Et de plus en plus, quand on voit plus de gens qui vont pratiquer le sport, aussi des gens qui viennent d'autres disciplines, qui peut-être ils n'ont pas les mêmes connaissances, donc c'est une motivation de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre dans mes années à courir et à étudier le sport.
Le développement de la data dans le sport de haut niveau, que ce soit course sur route ou trail désormais, tu vois ça d'un très bon œil, tu te dis que c'est que du positif, tu dis qu'il faut faire attention, il faut être formé, on doit apporter de la pédagogie. C'est quoi ton regard là-dessus sur l'arrivée massive de la data dans les plans d'entraînement et la façon de pouvoir programmer comme ça sa pratique du sport?
Oui, je pense qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, la difficulté qu'on avait comme entraîneur, c'était... analyser toutes ces datas. Aujourd'hui, avec la technologie, là, ce n'est pas le problème. Et c'est plutôt comment on peut interpréter ces datas. Donc, je pense que ce n'est pas une problématique d'accès aux datas ou de pas accès, mais plutôt de qu'est-ce qu'on fait avec ces datas. Et ça, on le voit avec les coureurs. Il y a des coureurs qui essayent de s'entraîner que sur le data et du coup, parfois... il perd les principes physiologiques, les principes d'entraînement. Et au contraire, il y a des gens qui s'entraînent sans prendre compte du data qui nous informe de comment on évolue, de comment on change des choses et qui peuvent perdre beaucoup d'enseignement. Aujourd'hui, je pense que c'est un moment qui est très intéressant parce qu'on peut avoir accès à tous ces data de toutes les séances, de notre physiologie, de notre capacité mécanique. Et mettre la connaissance derrière pour interpréter toutes ces données et être capable de créer des plans d'entraînement qui vont être très adaptés à chaque individu.
Et on va parler justement dans un instant de l'appli Coacha, mais Johan, moi je t'entendais cette semaine dans un épisode enregistré en direct de Chamonix avec nos amis d'Enduro et Joseph Mestralet notamment, dire que, et c'était marrant d'avoir ton témoignage de sportif de haut niveau, tu as plus de 20 ans de carrière dans le très haut niveau, et tu disais qu'au début la data dans les années, au milieu des années 2010, 2015, 2016, tu étais un peu fermé, tu disais je veux plus entendre parler, je veux me faire confiance et aller sur les sensations, et aujourd'hui tu reviens un peu et tu te dis au contraire, là, je suis plus curieux et je veux aller voir ce que la data peut apporter pour l'optimisation de mon entraînement, quoi.
Ouais, parce que la data a bien évolué aussi. Hein. Aujourd'hui,
oui, on
voit que tout est ultra calibré, tout est ultra scientifique et ça fait partie du développement du trail ou du marché du running. De justement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à suivre grâce aux montres connectées, aux appareils qu'on peut avoir à porter au quotidien, à ton sommeil, à tout. Tu peux tout savoir sur l'athlète. Moi, au début, ouais, j'étais un peu. J'avais un regard un peu mitigé sur la chose parce que je me disais que. Tu peux avoir toutes les datas du monde, si tu n'as pas le mental, si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas la capacité à te faire mal à l'entraînement et avoir ce truc en toi, ce feu en toi, cette grinta, cette envie de performer, tu peux avoir le meilleur data scientifique au monde. Il ne peut pas le remplacer. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, avec le recul et puis avec l'âge, je me rends compte qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir temporiser parce qu'écouter son instinct, c'est très bien. Par moments, effectivement, le champion, il a besoin de courir à l'instinct. J'ai fait beaucoup de stages au Kenya et moi je m'inspirais de ces gars-là parce qu'ils n'avaient même pas de montre connectée, ils couraient à la sensation et ils avaient à peine une montre qui faisait chrono et pourtant c'était les meilleurs coureurs du monde. Donc je me disais en fait les datas elles servent à rien, nous en Europe on fait semblant de trucs mais eux c'est les champions et ouais. Ils courent juste à la sensation. Et effectivement, et aujourd'hui avec le recul parce que je suis un peu plus âgé et tout, et j'ai envie de me servir de ça pour justement mieux courir ma fin de carrière, mieux se protéger parce que tu es un peu plus âgé et que tu récupères moins bien et tu n'as plus trop le droit à l'erreur. Et l'avantage de toutes ces datas, c'est qu'elles font progresser tout le monde et elles doivent être prendre. Je pense qu'elles sont très intéressantes, mais il ne faut pas oublier que la course à pied, ça reste un sport pas d'instinct, mais tu dois te connaître, tu dois connaître tes sensations. Et malgré tout, je pense qu'il y a ce paramètre-là, tu ne pourras jamais le remplacer. Ouais.
Bien sûr. Tu te rends compte, Kylian, il est plus vieux que toi, Johan Durand. Tu as vu ça?
Ouais.
Ça y est, il a passé la quarantaine. Allons-y, du coup, parlons, discutons de tout ça avec Ben Dupont, qui est donc à vos côtés, qui est le fondateur, lui, de Coacha, de cette application, qui a donc réussi l'exploit, je vous l'ai dit, d'aller convaincre Kylian Jornet et Eliud Kipchoge. Ben, tu les as convaincus, pas seulement d'être là sur la photo, mais vraiment de s'impliquer dans les programmes d'entraînement. Est-ce que tu peux nous décrire Coacha en quelques mots?
Oui, complètement. Écoute, vraiment, en effet, on n'a pas convaincu ni Kylian ni Eliud d'être sur la photo, parce que quand on est arrivé, les premières rencontres qu'on avait, on n'avait pas le produit. Donc, c'est simple. Moi, j'ai commencé à bosser sur Coacha en décembre. Le 15 février, je suis sur le camp d'entraînement avec Eliud. Et j'ai pas de produit, j'ai rien. J'ai juste deux cofondateurs et l'envie de monter le projet. Et je suis pas professionnel du running. Et Eliud et puis Kylian, et puis je vais pas parler pour Kylian qui est juste à côté de moi, il pourra parler lui-même. Mais tous les deux, cette envie de transmettre ce qu'ils savaient faire. Et moi, de mon côté, l'envie qui m'a donné, que j'ai eue de monter Coacha, c'est parce que trouver des plans d'entraînement, c'est assez facile aujourd'hui.
Ouais.
Mais justement, tu vas faire tout ce qu'on se dit, savoir s'écouter, connaître ses sensations. Quand on est très expérimenté, comme toi, Johan, ou comme toi, Kylian, en fait, c'est possible parce que tu les reconnais, ces sensations. Tu sais quoi en faire. Mais quand tu es un athlète un petit peu moins expérimenté, tu sais pas quoi en faire. Et donc, moi, tu vois, mon premier marathon, j'ai une douleur au genou. Je sais pas comment adapter mon plan d'entraînement, qui est un plan en 12 semaines que je connais en avance depuis le début. Mon premier trail ultra au-delà des 50 km, je suis en train de monter Coacha, donc j'ai une vie professionnelle très remplie, je ne peux pas suivre jour pour jour exactement tout ce que je dois faire et je ne sais pas comment adapter le plan à chaque fois. Donc nous, quand on a vu ça, on n'a pas eu envie de dire à Kylian, donne-moi ton plan d'entraînement, je vais le mettre dans l'app, ou donne-moi Eliud ton plan sur route, je vais le mettre dans l'app.
Oh, surtout pas, ça fait peur.
Oui, ça fait peur. Pas mettre en train
voilà, c'est à utiliser avec précaution. Mais c'est vraiment de comprendre, en fait, qu'est-ce que Kylian ou Eliud ou les autres athlètes qu'on a rencontrés, avec qui on travaille avec tous les athlètes qui sont dans le même groupe d'entraînement d'Eliud, notamment, font que tous les coureurs peuvent faire. Et donc, il y a la planification, et ça, c'est ce dont on a parlé. Donc, on planifie toutes tes séances autour de tous tes objectifs, si tu en as plusieurs dans l'année. On planifie ton renfort, on planifie ta nutrition.
Et oui, ça dépasse le cadre de l'entraînement pur. Il y a du renfort, de la nutrition, tu l'as dit, c'est tous les aspects sont concernés. Ouais.
Tu as tout, mais surtout les deux piliers pour moi qui me manquaient vraiment, c'est le deuxième, c'est l'adaptabilité. Je pense que quand à chaque fois que je parle avec Kylian, c'est sans doute le mot que je te fais prononcer le plus ou que tu prononces tout seul le plus, mais qui est l'adaptation du corps à l'effort, mais aussi, moi, c'était l'adaptation du plan. Tu vois, aujourd'hui, on est la seule app qui, toutes les semaines, refait ton plan. On est la seule app où une femme peut dire, écoute, aujourd'hui, la séance de VMA, c'est pas pour aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on fait ? On est la seule app où on peut dire, écoute, là, je suis à l'UTMB de mercredi à vendredi, je vais pas courir là, comment t'adaptes mon plan ?
Et comment ça marche concrètement, Ben, alors ? Il y a que de l'IA, il y a une personne humaine qui répond, qui réagit à tout ça, comment ça marche ?
Non, il n'y a pas de personne humaine, mais il y a un mélange de vraiment tous les principes important, tu vois, des heures de travail qu'on a fait avec Kylian, avec Eliud, de dire voilà, c'est quoi tous les principes importants et qui représentent aussi ce style d'entraînement. Parce que, tu vois, par exemple, Eliud sur route, il s'entraîne avec une méthode plutôt kényane, Jacob Ingebrigtsen, il a plutôt, tu vois, c'est pas la même.
C'est sûr.
Ouais, donc en fait, déjà, tu viens pour un style et on a 80% des coureurs qui restent après leur premier entraînement, mais ça veut aussi, donc c'est énorme, c'est génial, mais ça veut aussi dire qu'il y en a un sur cinq, c'est pas leur style, c'est pas ce qu'ils veulent. Et après, surtout après chaque séance, tu peux laisser une note vocale ou écrite sur ton ressenti.
Okay.
Et pour moi, c'est ça qui fait la différence.
Ouais, évidemment.
Et tu vois, par exemple, moi en ce moment-là, je prépare un trail, j'ai une petite douleur au genou. Après chaque séance, je peux faire un feedback de est-ce que ça va, ça va pas. Et mes séances de renfort que l'appli me propose, elle le sait ça. Donc elle va me faire du renforcement sur les quadris s'il y a besoin de renforcer du quadri.
Okay.
Elle va m'adapter mes séances en fonction de ça. En période de canicule, elle va me dire spontanément attention, là, on va peut-être pas aller faire la grosse séance. Donc ça prend tout ça avec de l'IA, mais surtout avec au-delà de la data qu'on a tous dans nos montres. Moi, ce que j'avais vraiment envie d'avoir, c'est la data qu'il y a dans ta tête et dans ton corps.
Ah ouais.
Et que tu partages peux le partager. Ça. Ouais. Et ça, tu le partages après chaque séance, après chaque semaine. Tu laisses cette petite note vocale et le plan va se réadapter en fonction de ça. Et on couvre de plus en plus de cas d'usage et on ne les couvre pas tous encore. Il y en a plein de fascinants qu'on a envie de développer. Mais c'est vraiment pour moi cette clé-là, parce qu'on sait tous tous ceux qui ont préparé des courses que le plan que tu as prévu 12 semaines en avance.
C'est beau, t'es sûr que jamais. La première semaine, déjà, t'es sûr que.
Ça se passera pas comme tu l'as prévu, ouais, ça c'est sûr.
Exactement.
Qu'est-ce qui t'a convaincu, Kylian, de t'engager dans le projet ?
En fait, c'est ce que Vianney vient de dire, c'est que la philosophie, c'est vraiment cette adaptabilité du plan à la personne, aux circonstances qui arrivent, et baser la décision sur des principes qui sont très simples, et qui respectent des principes qu'on connaît de la physiologie depuis longtemps, mais qui s'adapte à chaque instant en fonction des circonstances. Mmh. Et ça, c'est vraiment le travail de l'entraîneur. C'est pas savoir à quelle séance on doit faire à 3-4 semaines, mais c'est savoir comment l'athlète il se sent aujourd'hui et comment on doit s'adapter. Et finalement, par rapport aux data, c'est exactement ça. On peut avoir bien toutes les données, mais notre cerveau, c'est un ordinateur qui prend compte de toutes les sensations de tout le corps. Mmh. Et donc, le ressenti du feeling, si on l'affine, il peut donner soit à l'entraîneur, ou dans ces cas, l'entraîneur, c'est l'application, il lui donne des informations qui sont très relevantes. Et qu'avec ça, il va pouvoir adapter toutes les prochaines séances, toutes les prochaines choses qui vont être autour de l'entraînement. Et c'est cette vision de créer à partir de ça qui vraiment m'a inspiré de dire on peut former des athlètes avec ça, et surtout qu'on peut faire que les gens ils se fassent plaisir à courir.
C'est surtout
ils restent, ils se blessent, ils restent pas sur le sport.
Ouais. Bien sûr.
Ils abandonnent pas.
Le risque, c'est le coup d'arrêt de la blessure, et là, de repartir à zéro et de perdre la motivation. Donc, c'est sûr que c'est primordial. C'est très intéressant, Ben, parce que nous, on avait consacré un épisode il y a quelques semaines à l'apport de l'intelligence artificielle dans l'entraînement. Et ce qui était ressorti de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas que des bons ou que des mauvais côtés. En revanche, il y a un aspect qui est souvent revenu, et j'aimerais savoir comment tu le traites. C'est que la remarque qu'on s'était fait, c'est que l'IA a tendance à régulièrement, voire systématiquement positiver, c'est-à-dire voilà, être ambitieuse pour tes objectifs, voilà, et faire en sorte que tu restes motivé. Donc voilà, toujours un discours positif. Rarement t'envoyer des warnings en te disant peut-être que tu te trompes d'objectif ou quoi. Est-ce que vous avez pris cette donnée en compte et comment vous la traitez pour rester le plus honnête possible avec vos utilisateurs, par exemple ?
Ouais, ouais, complètement. Bah, tu vois, moi le j'encourage tout le monde à tester coach. Le coach des fois me vanne hein, dans la...
Ah c'est bon ça. Ah, il a même de l'humour. Ah ouais, ah, bah, c'est la première IA.
Tu vois, et de plus en plus, et je crois qu'il y a deux choses. Il y a un travail qui est quand même fait par tous les gros groupes qui développent des IA pour qu'elles soient quand même de plus en plus opinionated et te dire quand t'as tort, parce que c'est quelque chose qui a été remarqué pas que dans le running. Et ensuite, il y a comment tu l'utilises toi. Et donc nous, moi, ma philosophie clairement, c'est celle-là. C'est j'empêche très rarement l'utilisateur de faire quelque chose, parce que, un, je considère qu'il y a des gens qui se connaissent très très bien, et puis je ne suis pas là pour les empêcher de faire quelque chose. Ouais. Comme un coach, hein, d'une certaine façon, ton coach, il peut te dire n'y va pas, il ne va pas te menoter. Hein.
c'est vrai.
Donc voilà. Par contre, ce que l'IA nous permet de faire très bien, c'est de t'alerter, de te dire c'est pas la bonne chose. Et puis surtout, c'est pas une app 100% IA. Tu vois, quand je parlais de la planification, tout le plan qu'on fait, il n'est pas généré par les IA de OpenIA, etc. C'est pas ça. Toute la partie adaptation, je laisse une note vocale, etc. Oui, ça utilise de l'IA par endroit pour traiter certains problèmes, certaines features qu'on a envie de faire. Mais en fait, il y a beaucoup de choses où tous ces principes-là qu'on a recueillis avec Kylian, avec Eliud, ils sont encodés dans l'app et ils sont comme ça. Et donc, des fois, moi, ça m'arrive, je lui dis, tu vois, ça m'est arrivé encore cette semaine. Cas très concret, donc je savais que je venais à l'UTMB, que je ne pouvais pas faire mes séances du mercredi, etc. J'avais une séance de tempo, je lui ai dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je pousse plus, est-ce que je fais plus vite, est-ce que je rajoute une reps. Il m'a dit non, parce que là en fait tu viens de te faire une bonne sortie de 2h30, il faisait chaud, c'était plus que ce qu'on avait prévu de faire, donc non. Et je lui disais mais si je veux le faire, et bah non, en fait je ne pouvais pas, pourquoi, parce que c'est... Alors est-ce que c'est bien qu'à la fin, mais pas après sur la piste où voilà, je fais ce que je veux. Mais en fait, moi, c'est ça. Et dans le style d'entraînement, c'est pareil. C'est on cherche à avoir un produit qui a une vraie opinion.
Non, bien sûr.
Qui ne laisse pas indifférent.
Mais c'est important,
donc,
bien sûr.
Voilà.
Mais surtout, s'il te plaît, évite de rentrer dans l'algo les perfs de Kylian, Johan ou Elliot, parce que le problème, c'est que ça va tout foutre en l'air. Tu vois,
ouais, dire, ouais, ouais.
Vas-y, fais 200 bornes, pas de problème. Vas-y, n'hésite pas, pourquoi pas. Écoutez, c'est passionnant. Je précise l'orthographe de Kocha pour ceux qui nous écoutent. Hein. Ça sera inscrit dans la description de l'épisode, mais c'est K-O-T-C-H-A. Voilà, donc l'appli Kocha. Disponible sur tout type de smartphone, hein, j'imagine.
Exactement.
Ben, voilà. Donc ouais, n'hésitez pas si ça vous intéresse de tester. Il y a un abonnement payant d'ailleurs ?
Il y a un abonnement payant. On a 2 semaines gratuites pour essayer autant de séances que vous voulez, autant d'objectifs. Vous pouvez tout essayer, la renfo, la nutrition, les plans trail, les plans route. Et voilà, et on a 80% de nos coureurs qui, après leur premier entraînement, continuent avec nous. Donc on est très contents. C'est facile d'essayer.
Si tu prends une photo de ton burger, il t'envoie un doigt d'honneur.
Ah oui, tu peux envoyer ce que tu manges et tout ça pour le plan nutrition.
Tu peux pas encore lui mettre de photos, c'est une bonne idée.
Ça viendra.
Tu peux lui dire,
confiance.
Tu peux parler avec lui. Ouais, c'est une super idée. Je vais mettre.
J'ai encore deux questions pour le grand Kylian Jornet qu'on est toujours honoré de recevoir dans RMC Running. La première, elle concerne tes envies, Kylian. Bon, là, c'est particulier. Tu vas suivre un protocole, tu vas te faire opérer et on espère que tu vas vite revenir dans le sport. Mais à moyen terme, est-ce que tu as des rêves d'aventure comme tu nous as déjà conté la traversée des Alpes ? Est-ce que tu as plus ce côté perf et grande course à faire ou refaire ? Et recroiser des légendes de ta discipline. Tu es dans quel état d'esprit ? Tu te projettes un peu ?
Oui, c'est un peu un mélange des deux. Je dirais que ce qui motive, c'est faire un peu toutes ces choses. Je sens que je performe encore bien, que dans mes séances d'entraînement, je vois que je m'améliore encore sur plusieurs aspects. Donc, j'ai envie de faire de la compétition pour ça. Et aussi des projets, des longs projets en montagne, des longues traversées, c'est des choses qui me font rêver et qui demandent peut-être un peu plus de temps, d'engagement surtout. Mais c'est une chose qui au niveau émotionnel, ça donne beaucoup plus qu'une compétition. Donc aujourd'hui, c'est les deux choses qui me font rêver, me réveiller tous les jours et partir à l'entraînement.
Et je suis désolé, je vais te titiller jusqu'au bout, mais j'ai envie que tu me donnes un podium probable pour demain, pour le départ de l'UTMB. Quoi. Désolé. Je t'en demande pas un, je t'en demande trois. Voilà. Et qui sont ceux que tu sens bien pour la grande course qui nous attend à partir de demain ?
Oh là, c'est très difficile. C'est compliqué, il y a des choses. Mais je dirais, il y a quand même un de mes voisins, Jonathan Albon, qui participe. Il a fait un très bon été, un bon entraînement. Donc j'espère qu'il va être là. Il a les capacités. Après, on a vu, c'est que Ben, il est en train de faire l'an dernier aussi. Il a fait
Ben Diman, ouais. Il a fini deuxième l'an
deuxième.
Dernier.
Ouais. Ouais, il a fait une belle course. Et allez, on va dire à Vincent, que j'espère que. Après,
Vincent Bouillard, notre ami.
Après la course qu'il a fait, la Western, qui est incroyable.
Incroyable.
Qu'il va faire aussi une énorme course ici.
Ah, Kylian... Ça sera un warrior en tout cas celui qui va gagner parce que
il y a beaucoup de monde. On pourrait dire une dizaine de plus qui
ah ouais, bah, y a des noms. Bien sûr, il y a des noms. Il y a d'autres amis d'RMC Running. Il y a Baptiste Chassagne, il y a quelques grands noms qui vont s'affronter.
Il a fait un super 90. Et puis chez les filles, on peut voir Blandine quand même. J'espère qu'elle va être là. Elle a la capacité. Et puis j'ai
parce qu'on a appris le forfait de Rootcroft.
Oui, Root qui était quand même, je pense, sur un niveau qui. La favorite, mais il y a Cournet qui est toujours là, elle fait des courses incroyables. Rachel aussi qui a montré le niveau qu'elle a, même par rapport aux hommes. Donc je pense que ça va être aussi une belle course chez les femmes.
On a vraiment hâte d'y assister. Un grand merci, Kylian Jornet, Ben Dupont, d'avoir été dans RMC Running. Tous les deux associés dans ce beau projet de Kocha. Donc allez tester cette appli si ça vous intéresse. Merci à vous deux. On vous dit à bientôt dans RMC Running. On vous souhaite une bonne course et beaucoup de spectacles pour demain. Et vous le savez, toute la semaine est consacrée à ce magnifique événement de l'UTMB. Johan Durand enchaîne les épisodes. Il est toujours aussi pertinent. Donc un grand merci à Johan Durand. Allez suivre ça sur nos réseaux sociaux et sur les plateformes de téléchargement. Merci à tous les trois et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.